Voilà, nous voulons ouvrir nos Bibles et continuer dans l'épître de Paul aux Romains. Là, il y a 2 semaines, j'étais dans le Nord et il y avait la sœur Suzanne Ossa qui revenait du Tchad, du sud du Tchad, où on venait de dédicacer une nouvelle traduction de la Bible. C'était dans la langue des gens du pays, du sud du Tchad et du nord de la Centrafrique. Et là, les gens se réjouissaient pour la première fois. Ils ont le texte dans leur langue. C'était tellement important, c'était une grande joie. Et puis, il n'y a pas si longtemps aussi, c'était au Mali qu'ils viennent de se réjouir de ce que la Bible soit dans la langue de Sonré, une langue ancienne, qui représentent beaucoup de monde, et la Bible dans leur langue, de pouvoir lire. On a tellement l'habitude d'avoir un texte qu'on peut lire, et nous, on a plusieurs traductions, mais de l'avoir pour la première fois dans sa propre langue, au lieu de toujours la lire dans une langue étrangère. Hein, imaginez que la seule Bible que vous aviez, c'était une langue en allemand. Pour certains, ce serait un peu pénible, hein, moi en particulier. Mais de pouvoir lire la Bible. Et donc là, c'est un plaisir de pouvoir ouvrir la Bible encore une fois, dans Romains chapitre 1. Et nous sommes toujours dans l'introduction. Hein, c'est à partir du verset 19 du chapitre 1 qu'on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et les arguments de l'apôtre Paul. Il est encore en train de nous présenter le plan de son ouvrage. Et donc, je vais encore lire une fois à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. C'est le verset 18 qui va nous intéresser ce matin. Donc je commence à lire au verset 8, Romains chapitre 1 et verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne peux pas vous laisser ignorant, frère, car j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. La semaine dernière, nous avons noté que l'évangile de Dieu, dont il nous parle, dont il fait mention dans le premier verset, il nous parle de l'évangile de Dieu, et il nous dit que l'évangile de Dieu révèle 2 choses essentielles dans ce qui est de la relation entre Dieu et les hommes. Nous avons vu au verset 17 qu'il est dit que l'évangile a révélé la justice de Dieu. Hein, l'évangile a révélé la justice de Dieu. Et le fait que Christ meure sur une croix, eh bien, c'est une expression de la justice de Dieu. Et au verset 18, donc, que nous allons voir aujourd'hui, eh bien, nous remarquons qu'il nous révèle la colère de Dieu. Et il est indispensable de se faire une juste idée des exigences de la justice de Dieu pour comprendre la colère de Dieu. Il faut comprendre ce qui est juste pour comprendre pourquoi quelqu'un pourrait se mettre en colère parce que la justice n'est pas respectée. Vous avez certainement remarqué, je vois tous, si vous avez un certain âge, vous avez tous remarqué que la colère des hommes, elle est ressentie dès qu'il y a de l'injustice. Dès qu'on ressent de l'injustice vis-à-vis de nous, autour de nous, tout de suite, c'est la colère qui s'exprime. Et il n'y a rien de plus normal. On parle toujours de la colère comme étant un vilain défaut, mais il y a une colère qui est juste. Et heureusement pour nous, parce que notre monde, ce serait un drôle d'endroit si on ne se mettait jamais en colère pour les injustices. Et quelque part, parfois, on met des gilets jaunes pour essayer de le dire, mais on exprime une certaine colère. Bon, c'est vrai que très souvent, la colère des hommes est infondée, parce qu'on n'a pas vérifié les faits, et on s'est mis en colère sur un soupçon ou sur une fausse accusation. Et là, il y a injustice sur injustice, et puis des personnes en général, des personnes qui sont blessées. Ça, c'est vrai, mais ça ne change rien au fait qu'il y a une relation entre injustice et colère. Même quand c'est mal fait, la réalité est là. Parfois, la colère n'est pas justifiée parce qu'elle découle d'une interprétation égoïste de la justice. Parfois, on se met en colère seulement quand ça m'affecte moi, mais si ça affecte les autres... récemment, là, dans les études du jeudi soir, nous avons vu cet avertissement que Jésus nous donne. Il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et avant de te mettre en colère, c'est de voir s'il n'y a pas... si je voudrais être jugé du même jugement. On voyait chez les humains, quand c'est moi qui ai raison et les autres ont tort, alors là, on est sur nos grands chevaux, là, et puis... Mais quand c'est nous qui avons tort, alors on veut que les gens soient patients avec nous, on veut qu'ils pardonnent et puis qu'ils excusent la chose. Vous savez, on n'est pas toujours juste nous-mêmes, on ne traite pas tout le monde de la même manière. En réalité, malgré le fait que la colère des hommes n'accomplit pas toujours la justice de Dieu, nous dit Jacques 1:20, il nous dit la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ce qui est important, et c'est le fait que la colère s'exprime pour de l'injustice. Et ça, c'est cette partie-là que je veux souligner, parce qu'elle nous dit beaucoup sur le Créateur. Les promoteurs d'une origine strictement matérielle de l'homme ont du mal à expliquer l'origine des notions de justice que l'homme peut avoir, des notions de bien et de mal, et les notions de... vérité et de mensonge, c'est quelque chose qui est chez l'homme, chez l'être humain, et il n'y a pas un siège particulier pour cela, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une partie du corps qu'on peut enlever puis tout d'un coup l'autre on n'est plus conscient du bien et du mal ou... non, c'est là, c'est pas forcément dans le code génétique, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est une chose qui est particulière chez les êtres humains, cette connaissance, cette conscience de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est moral. On essaye de nous dire que cela provient d'une certaine éducation, parce qu'on a été élevé dans une certaine culture et pas dans une certaine société, et donc il y avait des tabous, et donc ils nous ont été passés. Mais c'est quand même bizarre. C'est pas le fait, je ne compare pas les règles chez les uns et chez les autres, mais c'est le fait que quelque part, quelle que soit la société humaine, quelle que soit la culture, eh bien, il y a toujours cette notion de ce qui est juste et ce qui est injuste, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui doit se faire, ce qui ne doit pas se faire. Il y a toujours un reste quelque part. Avez-vous déjà vu des animaux se mettre en colère pour une injustice que subit un autre animal, et en particulier quand c'est d'une autre race, hein? Est-ce que vous avez vu les animaux faire une manifestation parce qu'on traite mal, hein, les chiens qui se mettent en colère parce qu'on traite mal les chats, hein? Ils n'ont pas cette notion. Même pour à côté d'eux, s'il y a une injustice, ils n'ont pas cette notion d'injustice. Ils ont la notion du danger parfois, ils peuvent intervenir, parfois même ils sauvent du danger. Mais la notion d'injustice, pourtant chez l'homme, c'est extraordinaire comment l'être humain peut se mettre en colère parce qu'il y a un petit chaton dans l'allée qui est maltraité, ou parce qu'il y a des baleines à l'Arctique qui ne sont pas protégées, et on se met en colère et on réagit parce que ce n'est pas juste. Hein, c'est extraordinaire cette capacité que l'être humain a. Et même s'il ne s'en sert pas toujours, et souvent c'est très égoïste, mais c'est le fait que ce soit là est quelque chose d'extraordinaire, et en fait qui nous rappelle que c'est venu de quelque part, et c'est venu du Créateur. Et le Créateur, lui, en particulier, et c'est ainsi que la Bible nous le révèle, il a une définition de la justice. Et quand la justice est bafouée, eh bien, il y a de la colère. C'est une expression de la justice. Hein, cette colère qui n'est pas égoïste et qui défend l'intérêt de l'autre. Cette colère est normale qu'elle existe là. Hein, c'est pas... trop souvent, et c'est là où le tort arrive, c'est lorsque je me mets en colère pour moi-même. Mais en général, c'est plus juste quand je me mets en colère pour quelqu'un d'autre. Hein, c'est plus juste dans mes jugements quand il s'agit de réagir par rapport à quelqu'un d'autre. Mais ce sont des restes, et même si la Bible nous parle de l'être humain qui a chuté à cause de la désobéissance, et ce n'est plus comme avant, mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste des traces. Il reste des traces de ce que Dieu avait conçu à l'origine. Et ce sont des traces qui nous rappellent ce que Dieu veut et ce qu'il veut rétablir par le salut que nous avons en Jésus-Christ. Il veut rétablir ce sentiment de justice et le désir d'insister sur la justice et au point de se mettre en colère si elle n'est pas respectée. Et donc... nous devons nous souvenir et remercier Dieu, mais c'est une chose qui me permet de savoir qu'il y a quelque part, il y a une justice, c'est Dieu qui l'incarne, et donc il y a une colère. Vous savez, regardons de plus près ce que l'Évangile nous enseigne sur la colère de Dieu. Vous savez, il est difficile d'avertir quelqu'un d'un danger sans lui parler de la menace. Hein, on est obligé de lui en parler. On ne peut pas dire que des belles choses. Hein. Un enfant, vous lui montrez une prise de courant et vous êtes obligé de lui dire, écoute, si tu touches à ça, ça peut te tuer. C'est pas qu'on ne veut pas lui faire peur, mais on sait qu'il y a un danger. Et il n'y a rien de plus normal que l'avertir, lui dire, mais il y a un danger. Et si tu... Après, tu ne contrôles plus les conséquences. Vous ouvrez un ouvrage médical sur une maladie et on ne vous montre pas les images de personnes bien portantes. On montre quelqu'un de malade, on montre un organe malade. C'est pas pour faire peur, c'est pour nous dire ce qui pourrait arriver et ce que ça pourrait donner et à quoi ça ressemble. Et pour nous encourager à la précaution. En fait, Jésus lui-même, qui est la personnification de l'amour, hein, c'est lui qui nous fait connaître l'amour de Dieu, par excellence. Mais vous savez qu'il a parlé plus souvent de l'enfer que du ciel. Et c'est un peu normal parce que lui, s'il était venu sur terre pour mourir, c'est justement parce qu'il connaissait le danger et qu'il voulait nous délivrer de ce danger. Donc c'est normal qu'il y pense et que ça soit là et qu'il puisse avertir au lieu de laisser les gens dans l'ignorance et puis dire bon, ben, on va les laisser aller, ils sont heureux pour l'instant et on ne va pas les perturber. Et puis quand ça viendra, ben, c'est dommage. Non, non, il dit non, on les avertit du danger pour qu'ils se préparent. C'est pas vouloir du mal que d'avertir d'un danger. Certainement que la parabole qui présente l'enfer de manière la plus graphique, eh bien, c'est la parabole de l'homme riche et de Lazare. Hein. Et regardez avec moi dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, c'est sûr, c'est pas le genre de passage qu'on lit juste avant de nous coucher le soir, mais c'est quand même une réalité. Hein. Luc chapitre 16, et je vais lire les versets 19 à 31. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Jésus raconte la parabole, et puis, et en même temps, il fait parler les personnages de la parabole pour dire justement ce qu'il a à dire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, donc les deux extrêmes. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'était une expression à l'époque, c'était pour dire cet endroit d'attente où on attend où ils attendaient que Christ meure pour pouvoir être libéré, pour partir au ciel. Hein. Donc c'était un peu. Donc il parlait du sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Il n'est pas dit que le pauvre a été enseveli. Hein. On ne sait pas comment on a disposé de son corps. Le riche, il a été enseveli, mais dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc le riche leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il lui dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » Le but de Jésus, ce n'est pas de décrire la souffrance, c'est de dire que, en fait, il dit par la bouche d'Abraham, il dit, si Lazare, que ni Lazare, ni l'homme riche n'étaient prédestinés à aller dans leur lieu respectif. C'était un choix pendant la vie. Et puis ensuite, il y a eu les conséquences. L'homme riche a été enterré, certainement comme il se doit pour un homme de son statut. Mais il nous dit que pour Lazare, ben, ce sont les anges qui l'ont pris. Hein. Personne n'a remarqué, mais les anges l'ont pris. Et se sont souvenus de lui. Chacun, c'était en fonction de sa relation avec Dieu. Et là, cet homme riche, eh bien, il est préoccupé par l'état de ses frères. Il sait quelle vie il mène. Et il sait que si ses frères continuent dans la voie dans laquelle ils se trouvent, eh bien, ils finiront par venir là où il est. Et donc, il se préoccupe, il voit que c'est irréversible pour lui. Alors, il pense à ses frères. Et Abraham dit, premièrement, les gens ne croient pas parce qu'ils voient un miracle. Un miracle, ça fait ouvrir la bouche, ça laisse muer, mais ça ne crée pas la foi. C'est la parole de Dieu. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter. Et il dit, c'est là que les choses se décident. Qu'as-tu fait avec ce que tu as entendu? Dieu a dit, qu'est-ce que tu en as fait? Et c'est là, il a dit, c'est ça qui détermine la chose. C'est le choix de chacun devant les faits. La parabole est là, c'est pas pour nous parler de cet homme riche ou ni de Lazare, mais pour nous dire, écoutez, eux ont vécu une expérience. Un sage sait tirer des bonnes leçons des expériences des autres. Et c'est à nous de tirer les bonnes conclusions aussi. Mais ce qu'il nous dit tout simplement, et Jésus le dit au travers de la bouche d'Abraham, il dit, écoute, ce que Dieu a dit, écoute-le, mets confiance en cela, et en enseignement. À l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament, c'est pour ça que Jésus fait mention de cela. Aujourd'hui, nous avons toute la Bible. Ben, c'est dans ma relation avec cela que tout peut se décider. Jésus n'a pas dit raconter cette histoire pour faire peur, mais pour dire, tu peux te préparer. Et tu peux mettre les choses en ordre dans ta vie pour aller dans le lieu que tu désires rejoindre. C'est quelque chose qui est à notre portée. Jésus a tout mis en place. Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est pour pouvoir nous offrir le ciel et l'accès au ciel. Maintenant, c'est à nous de choisir et de croire. C'est ça le message de l'Évangile. Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité le troisième jour. Et donc, je reviens à Romains chapitre 1 et au verset 18. Donc, il nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a deux choses qui mettent Dieu en colère. Il dit « toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ». Il a dit l'impiété, c'est le contraire de la piété, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et puis il dit l'injustice de connaître la vérité et de la cacher des hommes pour qu'ils ne connaissent pas la vérité. Il a dit « ça c'est grave, ça met Dieu en colère ». Et on comprend pourquoi. Ça nous met en colère parfois que lorsque, après tant d'années, on se rend compte que consommer un certain aliment, eh bien, c'était cancérigène. Et ça nous met en colère. Ils ne nous ont rien dit. Et puis, ils le savaient tout le long. Ils n'ont rien dit. Ça nous met en colère. Et il y a raison de se mettre en colère. Et Dieu dit, non. Mais il y a aussi des vérités que je donne aux humains, que j'ai révélées. Et puis, il y en a qui se prennent sur eux de cacher cela, de détourner, de déformer pour que les gens ne sachent pas. Première chose qui le met en colère, c'est l'impiété. L'impiété représente la relation entre Dieu et l'homme et son Dieu. Paul développe cela un peu au verset 21, du même chapitre, un peu plus bas, et on reviendra dessus certainement la semaine prochaine, mais verset 21, il dit « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce ». Il y avait un devoir et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est la première faute grave. Vous savez, cette impiété s'est manifestée la première fois dans le jardin d'Éden. C'est lorsque le premier couple a préféré écouter la demi-vérité du serpent plutôt que d'écouter la vérité du Créateur. Et vous savez qu'une demi-vérité, c'est un mensonge, hein, n'importe comment. Et il y a eu désobéissance délibérée de la part d'Adam et Ève. Mais bon, la grâce de Dieu était là quand même. Hein. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que quand un homme se met en colère, en général, il est encore plus sévère qu'il ne devrait l'être. Hein. Il exagère en étant trop dur. Et il s'emporte, il perd le contrôle de lui-même. Et puis surtout, dans sa colère, il n'exprime aucune grâce ni amour. Et ça, c'est le défaut des humains. Tandis que Dieu, même dans sa colère, on voit sa grâce et son amour. Hein, et c'est un peu toute la chose lorsqu'on discipline nos enfants, c'est de pouvoir et punir et en même temps montrer de l'amour et montrer combien on les aime. De faire les deux choses en même temps. Et là, les enfants prennent très bien, hein, tout comme les humains, par rapport à Dieu. Et donc, Dieu, en jugeant Adam et Ève pour leur désobéissance, en même temps, il leur a, dans Genèse 3, 15, il leur a promis le Sauveur qui viendrait. Dans Tite chapitre 2, il nous dit, il nous parle de la grâce de Dieu. Tite chapitre 2, le verset 11 à 13, je vous lis cela, il nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Il dit donc la grâce de Dieu, cette faveur imméritée que Dieu nous fait, eh bien, elle nous enseigne à nous détourner de l'impiété, de convoitise mondaine. Et dit, voilà, si Dieu m'aime à ce point-là, si Dieu veut tout cela, et moi je veux lui faire plaisir, eh bien, il y a des tas de choses que je ne vais pas faire. Et je veux vivre pour lui. Et il nous dit, vivre dans le siècle présent selon la sagesse d'en haut, la justice d'en haut, la piété que Dieu nous donne. Et tout cela en attendant le retour du Seigneur, hein, d'être préparé pour lui. Ça, c'est l'impiété quand les hommes ignorent Dieu, refusent Dieu. Eh bien, alors qu'il a tant fait et tout, c'est tellement évident, et on le développera la prochaine fois, mais c'est tellement évident qu'il est là, et puis on essaye de l'ignorer. Hein. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être ignoré, alors que vous êtes actif et que vous faites beaucoup de choses, et puis on ne vous dit jamais merci. On vous attribue pas ce qui a été fait, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Et tout ça, vous savez, on supporte pendant un temps, mais il y a un moment où on dit « Et moi, j'existe pas ?» Et on me dit pas merci. Et puis on dit pas que c'est moi qui l'ai fait. Et on dit toujours que c'est un autre. Et on appelle ça de l'ingratitude. Vous savez, on le supporte mal. Pourquoi ? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et Dieu n'apprécie pas d'être ignoré, et qu'on n'a pas de temps pour lui. Et souvent, c'est le sort des mamans. Avec les enfants, ils veulent tout. Quand il manque quelque chose, ils se plaignent, mais ils oublient de dire merci à tout ce que maman fait. Et c'est une ingratitude qui est là. Et en fait, c'est là où le papa doit intervenir pour le rappeler. C'est lui qui doit défendre les droits de son épouse. Donc il nous dit, il y a deux choses. C'est l'impiété des hommes qui provoque la colère de Dieu. et aussi cette injustice des hommes qui représente un comportement entre les hommes. Hein? Et vous savez, la première offense d'un homme envers un autre homme dans la Bible, eh bien, c'est le meurtre d'Abel par Caïn, son frère. Ça, c'était la première offense. Et dans Genèse chapitre 4, et là, Caïn était pris de jalousie contre son frère, et en interprétant mal les choses, il pense que c'est injuste, et je ne sais pas tout ce qu'il pourrait penser, mais Dieu vient lui parler, hein, alors qu'il est en train de penser tout faux. Hein, parce que la seule raison pour laquelle Dieu a accepté l'offrande d'Abel, c'est parce que c'est par la foi qu'il l'a fait. Et Caïn n'a rien fait par la foi, c'est tout. C'était ça le seul problème. Hein, et Dieu vient parler à Caïn et dit, Caïn, écoute, si tu fais pas quelque chose, eh bien le péché couche à ta porte. Il dit, là, le péché est là, il veut pénétrer dans ta vie, et il veut prendre possession de ta vie et il va te détruire. Il dit à Caïn, écoute, domine sur le péché. Domine, prends le dessus sur tes pensées. Ne permets pas que tes pensées s'emballent et puis que t'emportent et te détruisent. Mais domine sur tes pensées, corrige-les, mets de l'ordre dans tes pensées, mets Dieu à sa place dans tes pensées, mets ta relation à ton frère dans tes pensées, mets tout cela en ordre et il dit, ce sera autre chose. Mais si tu continues comme tu es maintenant, tu vas te détruire. Et Caïn refuse, dit non, je reste dans mes pensées. Et dès qu'il aura l'occasion, eh bien, il tuera son frère. Et ensuite, il dira, quand on lui dira, mais où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Lui, il se débrouille, hein, ce n'est pas moi qui le garde. Hein. N'importe quoi. Et c'est une première injustice ou injuste vis-à-vis d'un autre être humain. Et Dieu lui parle, il refuse d'écouter, c'est délibérément qu'il va dans ce sens. Mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'après, Caïn se rend compte de ce qu'il a fait et des conséquences, et parce qu'il se rend compte que la vengeance viendra. Hein, que ce n'est pas parce qu'il a tué son frère que maintenant c'est terminé et on n'en parle plus, mais c'est que la vengeance va arriver et il a peur et il dit à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu lui dit, écoute, et Dieu dans sa grâce, et c'est extraordinaire, parce qu'un homme comme Caïn qui a commis le crime, Dieu dit, écoute, je mettrai un signe sur toi pour qu'on ne te tue pas. Je te protégerai. Après, il y a d'autres conséquences, tu dois devoir subir, mais ce sera pas, tu n'auras pas à craindre la vengeance. Et c'est là, c'est extraordinaire, il n'y a que le Dieu de la Bible qui est un Dieu qui peut juger sévèrement et en même temps offrir la grâce et la miséricorde et exprimer de la compassion. Mais je reviens à ce qui met Dieu en colère, c'est que certains hommes prennent sur eux de cacher la vérité des autres. Ici, voilà, regardez comment il le dit. Il dit qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Donc ils retiennent, alors que ce n'est pas de leur droit et ce n'est pas juste, quand Dieu dit quelque chose pour que tous le sachent, c'est que tous doivent le savoir. Et si certains les empêchent de l'entendre et qu'ils le gardent caché, captif, pour que cette vérité ne puisse pas agir. Et Dieu trouve cela très injuste. Et il nous dit au verset 21, la deuxième partie, il dit « Et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Ils se sont égarés dans leurs pensées. » Voilà la première chose. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont commencé à réfléchir sans Dieu. Elle a voulu exclure Dieu de l'équation. Et puis on arrive au verset 25. Il nous dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Hein, on l'a tout autour de nous. Hein. Au nom de Dieu, au nom de la religion, au nom de tout ça, mais on a déformé Dieu. Hein. On l'a présenté carrément à un Dieu que personne ne voudrait, en fait. Hein. Et beaucoup fuient Dieu, pas parce que Dieu est méchant et cruel, mais parce qu'on l'a représenté de cette manière-là. Et ceux qui ont été qui ont fait cela, hein, ce sera très grave devant Dieu, c'est une faute très grave. Paul va être très dur avec les Juifs dans le chapitre 2, hein, Romains chapitre 2, verset 17, il dit « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruite par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle et la science et la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Voilà, Paul écrit à ces Juifs, il dit « Vous, vous avez donné une fausse image de Dieu. Non seulement vous l'aviez et vous ne l'avez pas retenu, vous ne l'avez pas suivi, mais en plus vous communiquez une mauvaise image de Dieu. Et combien se détourne de Dieu à cause de vous. Jésus dira aussi aux scribes et aux pharisiens, il dira « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne ou de l'enfer, deux fois plus que vous. » Il dit « Vous le rendez pire. Hein, vous allez essayer d'en faire un disciple, et puis vous transformez en un homme pire. Hein, » C'est Saul, hein, qui est devenu Paul. En fait, il était le produit de l'enseignement des pharisiens. C'était un homme violent, persécuteur de l'Église, et qui pensait bien faire et servir Dieu en persécutant. Il était le produit de ceux qui étaient les docteurs de la loi. Et donc Paul savait de quoi il parlait, il l'avait vécu, et vous savez, c'est une chose qui met Dieu en colère, et on comprend pourquoi. Pour Dieu, pour le Seigneur, c'est une faute grave que de tromper les gens en leur faisant croire qu'ils sont dans la vérité, alors qu'il est évident qu'ils ne le sont pas et qu'ils ne le vivent pas. Hein? C'est vrai qu'ils vous enseignent des choses et puis eux vivent une autre vie, hein? Une vie secrète. Et ces derniers temps, on en a pas mal parlé dans les informations. Le jeudi soir, on parlait de ce passage où Jésus disait de se garder des faux prophètes. Et il nous dit, on les reconnaît à leurs fruits. Il dit, observez la vie qu'ils mènent. Ne vous occupez pas de ce qu'ils disent. D'abord, regardez la vie qu'ils mènent pour voir si ça vaut l'effort de les écouter. Ainsi, s'ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent, eh bien, il n'y a rien à faire avec eux. Hein, c'est pour ça que nous revenons toujours et la seule personne sûre, hein, c'est Jésus-Christ, c'est la Bible, et il faut se méfier de tous les autres. Paul parle de cette église, de ces chrétiens, ces juifs de Bérée, hein, une ville dans laquelle il était arrivé, et il dit d'eux, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Paul dit, ça, c'est des gens qui avaient des sentiments nobles. Pourquoi ? Au lieu de dire, bon, non, nous, on n'est pas d'accord. Non, qu'est-ce que vous dites ? On va voir ce que dit le texte, hein, ce que dit la Bible, et de vérifier. Et ils avaient toute une autre attitude. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Hein, la Bible, tout le monde la reconnaît comme étant la parole de Dieu. Alors on revient à la source et on puise là-dedans. On puise, et c'est là la fondation de notre foi. Et c'est pas parce que tu me dis que c'est là, c'est parce que je le vois moi-même. Je demande à Dieu de me montrer que c'est ce que la Bible dit. Et je suis responsable et je veux surtout pas tromper les autres. Hein, donc essayons de vraiment vivre cette vie. La colère de Dieu n'est pas là pour nous faire peur, elle est là pour dire que Dieu tient à la justice, hein, et que il est juste. Et nous aussi, nous devons avoir ces mêmes valeurs de Dieu, c'est d'avoir la pensée de Dieu, et aussi de, si on va se mettre en colère pour les mêmes raisons que lui, pas parce que moi, on m'a un peu trompé, mais parce qu'il y a l'injustice autour de moi, et je ne le supporte pas. Et surtout, je ne veux pas que les gens soient trompés. Hein, c'est ça qui met en colère, c'est de voir des gens qui sont trompés et on leur fait croire que c'est la vérité, alors qu'eux-mêmes ne le vivent pas. Et si tu ne le vis pas, c'est que tu n'es pas convaincu. Hein, c'est, quand tu es convaincu d'une chose, tu le vis. Hein, donc, comme disait quelqu'un, il dit, écoute, parle plus fort parce que ce que tu fais m'empêche d'entendre ce que tu dis. Hein, c'est, soyons des hommes et des femmes qui mettent en pratique la vérité, qui le vivons, et ça donnera du poids à nos paroles. Que le Seigneur nous aide à nous aligner sur l'enseignement du Seigneur et de vivre pour lui, de discerner la vérité et de vouloir plaire à Dieu. Nous allons prier.